1er octobre. La solution n'est pas du côté du temps. Toutes les religions affirment depuis toujours que le temps est nécessaire, le temps psychologique dont nous parlons ici. Le paradis est loin, très loin, et l'on ne peut y accéder que par un processus graduel d'évolution qui passe par la répression ou par l'accomplissement ou par l'identification à un objet, à une entité d'ordre supérieur. Or, nous voulons savoir s'il est ou non possible de se libérer de la peur de façon immédiate. Dans le cas contraire, la peur engendre le désordre, le temps psychologique suscite inévitablement en nous le désordre. Je conteste toute cette notion d'évolution, non pas celle de l'être physique, mais celle de la pensée qui s'est identifiée à une forme particulière d'existence liée au temps. Le cerveau, de toute évidence, a évolué pour parvenir à son stade actuel et il est toujours susceptible d'évoluer, de se développer encore. Mais en tant qu'être humain, je vis depuis 40 ou 50 ans au sein d'un univers tissé de théories, de conflits et de concepts en tout genre et au sein d'une société dans laquelle la rapacité, l'envie et la compétition ont engendré tant de guerres. Je fais partie intégrante de tout cela. Pour celui qui souffre, chercher la solution du côté du temps, compter sur la lente évolution de notre espèce dans les 2 millions d'années à venir, voilà qui n'a aucun sens. Pouvons-nous, tout en étant constitués comme nous le sommes, nous libérer de la peur et du temps psychologique? Le temps physique doit exister, nul ne peut y échapper. Mais la question est de savoir si le temps psychologique est en mesure d'apporter l'ordre non seulement à l'individu, mais aussi à la société. Nous faisons partie de la société, nous n'en sommes pas isolés. Que l'ordre règne au-dedans, au sein d'un être humain, et il règnera forcément au-dehors, dans la société. octobre. Un état hors du temps. Lorsque nous parlons de temps, nous n'entendons pas par là le temps chronologique, le temps des horloges. Ce temps-là existe et il doit exister. Pour prendre un autobus, ne pas rater le train ou le rendez-vous prévu pour demain, le temps chronologique est nécessaire. Mais d'un point de vue psychologique, demain existe-t-il? Psychologiquement en parlant, demain a-t-il une existence réelle? Ou ce demain est-il créé par la pensée qui, au vu de l'impossibilité de tout changement direct, immédiat, invente ce système de progression graduelle? Je vois bien moi-même, en tant qu'être humain, qu'il est terriblement difficile de mettre en œuvre dans ma manière de vivre, de penser, de ressentir et dans mes actions une révolution radicale. Et je me dis, il me faudra du temps, mais je vais changer. Demain ou dans un mois. C'est de ce temps-là dont nous parlons ici, de la structure psychologique du temps, de demain, du futur, et c'est dans ce temps-là que nous vivons. Le temps, c'est le passé, le présent, le futur, pas le temps comptable des horloges. Ce que je fus hier opère à travers le présent pour créer le futur. C'est un phénomène relativement simple. J'ai vécu il y a un an une expérience qui a laissé une empreinte dans mon esprit. Et je traduis le présent en fonction de cette expérience, du savoir, de la tradition, du conditionnement. Et c'est ainsi que je crée ce lendemain. Je reste prisonnier de ce cercle. C'est cela qu'on appelle la vie. C'est cela qu'on appelle le temps. La pensée, c'est-à-dire vous, la pensée avec tous ses souvenirs, son conditionnement, ses idées, ses espoirs et ses désespoirs, et cette solitude absolue de l'existence, c'est tout cela le temps. Mais si nous voulons comprendre cet autre état qui est hors du temps, dans lequel le temps s'est arrêté, il faut parvenir à savoir si l'esprit peut être totalement libéré de toute expérience, c'est-à-dire délivré du temps. octobre. L'essence même de la pensée. La pensée, c'est le temps. La pensée, c'est le mécanisme de la mémoire qui crée le temps sous forme d'hier, d'aujourd'hui et demain, sous forme de ce qui nous permet de nous accomplir et qui nous tient lieu de mode de vie. Le temps revêt pour nous une importance extrême. Vie après vie, une vie menant à une autre vie, qui est modifiée, qui continue. Il est évident que le temps est l'essence même de la pensée. La pensée, c'est le temps. Tant que le temps existe comme moyen de parvenir à quelque chose, l'esprit est incapable de se transcender. Aller au-delà de soi-même est la qualité propre à l'esprit neuf, qui, lui, s'est libéré du temps. Le temps est un élément de peur. Ce que je désigne par ce terme de temps n'est pas le temps chronologique, celui que scandent les horloges, secondes, minutes, heures, jours, mois, années, mais le temps sous forme de processus intérieur, psychologique. Là est le fait qui est responsable de la peur. Le temps, c'est la peur. Le temps, parce qu'il est la pensée, engendre la peur. C'est le temps qui crée la frustration et les conflits, car la perception immédiate du fait, toute vision lucide du fait, est en dehors du temps. Donc, pour comprendre la peur, nous devons avoir pleinement conscience du temps. Le temps en tant que distance, d'espace, de moi, créé par la pensée sous forme d'hier, d'aujourd'hui, demain, pensée qui utilise le souvenir de l'hier pour s'adapter au présent et conditionner ainsi le futur. Pour la plupart d'entre nous, donc, la peur est une réalité formidablement vraie. Et tout esprit qui est piégé dans les ramifications complexes de la peur ne peut jamais être libre. Il ne peut jamais comprendre la peur dans sa totalité s'il ne comprend pas le temps dans toute sa complexité. La peur et le temps sont inséparables. October 4. Ce désordre que crée le temps. Le temps, c'est le mouvement qui part de ce qui est pour aller vers ce qui devrait être. J'ai peur, mais un jour je me délivrerai de la peur. Le temps est donc nécessaire pour se libérer de la peur. En tout cas, nous le croyons. Passer de ce qui est à ce qui devrait être demande du temps. Et le temps implique un effort occupant l'intervalle entre ce qui est et ce qui devrait être. La peur me déplaît. Je vais faire des efforts pour la comprendre, l'analyser, la disséquer ou en découvrir les causes, ou bien je vais la fuir radicalement. Tout cela requiert des efforts, et nous sommes habitués à en faire. Nous sommes pris dans un conflit permanent entre ce qui est et ce qui devrait être. Ce qui devrait être n'est qu'une idée, une fiction qui ne correspond pas à ce que je suis, qui, en revanche, est le fait réel. Et ce que je suis ne peut subir de changement que lorsque je comprends ce désordre qu'engendre le temps. M'est-il donc possible de me débarrasser de la peur de manière absolue et instantanée? Si je laisse le champ libre à la peur, je vais provoquer un désordre permanent. Nous voyons donc que le temps est un élément de désordre, pas un moyen de venir enfin à bout de la peur. Aucun processus graduel ne permet de se libérer de la peur, de même qu'aucun processus graduel ne permet de se débarrasser du nationalisme. Si vous êtes nationaliste, tout en proclamant l'avènement prochain de la fraternité universelle, en attendant, ce ne sont que guerre, haine et misère, et toute cette abominable division entre l'homme et son semblable. C'est donc le temps qui suscite le désordre. October 5. Le temps est un poison. Vous avez dans votre salle de bain un flacon étiqueté « poison » et vous savez que c'est du poison. Vous faites très attention à ce flacon, même dans le noir. Vous vous en méfiez. Vous ne dites pas « Comment vais-je faire pour éviter tout contact avec ce flacon pour faire attention ?» Vous savez que c'est un poison, vous êtes donc extrêmement vigilant. Le temps est un poison. Il suscite le désordre. Si ce fait est bien réel pour vous, alors vous allez comprendre de mieux en mieux comment vous délivrer instantanément de la peur. Mais si vous considérez toujours le temps comme le moyen de vous libérer, alors aucune communication entre vous et moi n'est possible. Mais ce n'est pas tout. Il se peut en fait qu'il y ait une toute autre espèce de temps. Nous ne connaissons que deux types de temps. Le temps physique et le temps psychologique. Et nous sommes piégés dans le temps. Le temps physique joue un rôle important dans le psychisme qui, à son tour, a une influence sur tout ce qui est physique. Nous nous trouvons pris dans cette bataille, soumis à cette influence. Il faut accepter le temps physique si l'on veut pouvoir attraper un bus ou un train. Mais si l'on rejette complètement le temps psychologique, alors on accède à un temps tout à fait autre, sans aucun rapport avec les deux autres formes de temps. J'aimerais tellement que vous puissiez pénétrer avec moi dans ce temps. Alors, le temps n'est plus le désordre, mais l'ordre le plus formidable qui soit. octobre. Un flash de vérité. La vérité ou la compréhension surgit comme un éclair, et ce flash n'a pas de continuité. Il n'est pas dans le champ du temps. Il vous suffit de le constater vous-même. Comprendre est quelque chose de frais, d'instantané. Ce n'est pas le prolongement du passé. Le passé ne vous permettra jamais de comprendre. Tant qu'on est à la recherche d'une continuité, qu'on a soif de permanence, en amour et dans ses relations, ou qu'on recherche la paix éternelle et tout ce qui s'ensuit, on est à la poursuite de quelque chose qui est dans le périmètre du temps et qui, par conséquent, n'appartient pas à ce qui est hors du temps. octobre. Une quête vaine. Tant que nous penserons en termes de temps, la peur et la mort seront là, inévitablement. J'ai beaucoup appris, mais sans jamais rencontrer l'ultime réalité, et avant de mourir, je dois la découvrir. En tout cas, si je ne la trouve pas avant l'heure de ma mort, je garde au moins l'espoir de la rencontrer dans une autre vie, et ainsi de suite. Toute l'activité de notre pensée est fondée sur le temps. Notre pensée, c'est le connu, c'est le fruit du connu. Et le connu n'est autre que le processus du temps. Et c'est avec cet esprit-là que nous cherchons à trouver ce qui est immortel, ce qui est au-delà du temps. Quête tout à fait vaine, et qui n'a aucun sens, sauf pour les philosophes, les théoriciens et autres penseurs. Si je veux trouver la vérité, non pas demain, mais là, tout de suite, ne dois-je pas, le moi, l'ego qui ne cesse d'amasser, de lutter et de se donner une continuité à travers la mémoire, ne doit-il pas cesser de se perpétuer? Ne pouvons-nous mourir de notre vivant? Non pas en perdant artificiellement la mémoire, ce qui serait de l'amnésie, mais en cessant effectivement d'emmagasiner toute chose par l'intermédiaire de la mémoire, et donc en cessant de perpétuer le « moi ». Notre esprit peut-il, tandis que nous vivons dans ce monde imbriqué dans le temps, faire éclore un état dans lequel le sujet et l'objet de l'expérience soient sans fondement? Tant qu'il y a un sujet qui vit l'expérience, un observateur, un penseur, il y a la peur de cesser d'exister, et par conséquent, la peur de la mort. Ainsi, s'il est possible que l'esprit sache tout cela, soit pleinement conscient au lieu de dire seulement « effectivement, c'est simple », si l'esprit sait percevoir en toute lucidité tout le mécanisme de la conscience, voir tout ce que signifie la continuité et le temps, constater la futilité de cette quête qui prétend découvrir ce qui est au-delà du temps tout en passant par lui, si l'esprit sait voir tout cela lucidement, il se pourrait alors qu'il y ait une mort qui soit un véritable état créatif transcendant totalement le temps.